Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes en direct sur le Libre Journal des Controverses, 10h30, tous les samedis, 10h30. Je salue mon prédécesseur du Libre Journal de Géopolitique Profonde, notre ami Nicolas Stocker. Bravo à lui. Très très belle émission. Et puis des poèmes, on a droit à plus de la culture et à des beaux poèmes. Je salue bien entendu Virginie à la technique, Steven Spielberg des techniciennes, elle est aussi Nini Vlam. Virginie le jour et Nini Vlam la nuit, elle chante et elle danse sur du rock en diablé, des concerts. Donc, tu fais encore des concerts là? Non, la reprise va être bientôt. Ouais, il faut que le public quand même s'impatiente un minimum. Et je salue bien entendu Patrice, l'homme à la belle écriture. N'hésitez pas à appeler. Je sais en plus que vous allez appeler énormément ce matin parce que vous êtes parents, vous êtes grands-parents. Et donc l'histoire qu'on va vous raconter, la vraie histoire hein, d'Aline Delbourg qui est ici présente, j'imagine va vous toucher. Alors je suis avec Aline Delbourg, maman qui a écrit ce très beau livre « Et tu vivras toujours » parce que l'amour ne disparaît jamais. Bonjour chère Aline.
Bonjour Mike.
Dites-moi, pourquoi ce livre ?
Alors, ce livre, il est venu parce que Maria est arrivée dans nos vies.
Maria, c'est votre petite fille?
Oui, Maria, qui est née le 16 octobre 2018 et qui est décédée un 6 juin, il y a 7 ans, pile aujourd'hui. Et donc, du coup, Maria était porteuse d'une maladie génétique rare. On ne connaissait pas du tout cette maladie, donc l'amyotrophie spinale néonate de type 1. Et en 2018, il existait des traitements, mais tout était encore à faire. En tout cas, et sa venue a fait qu'on a dû se battre pour sauver les enfants qui venaient après elle, malheureusement, puisque pour Maria, malgré les traitements mis en place, c'était déjà trop tard.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette maladie?
Alors, c'est une maladie génétique rare, donc du coup, ça touche le chromosome 5, un gène qui va nous délivrer des ARN messagers, ce qui va nous permettre d'avoir du tonus, de parler, manger, respirer correctement. Et en fait, il y a une délésion, ça veut dire qu'il y a un manque d'ARN messager sur ce chromosome-là, sur ce gène-là. Et en fait, nos muscles se réduisent jusqu'au décès.
Et quand vous dites qu'il fallait se battre, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas été bien prise en charge, si?
Alors non, elle n'a pas été bien prise en charge pour la respiration.
D'accord.
C'est-à-dire que Maria, dès la naissance, en fait, dès qu'elle est née, ils ont dit à son papa que c'était une poupée de chiffon.
Une poupée de chiffon?
Oui.
Qui a dit ça?
L'infirmière, l'auxiliaire péricultrice qui s'occupait d'elle.
C'est quand même violent de dire d'un enfant qui est né, votre fille est une poupée de chiffon.
Exactement. Et c'est ce qu'elle lui a dit, mais sans autre explication. Elle lui a remis dans les bras, donc il est revenu vers moi, et il a fait mine de rien. Il me l'a remis, bon. Moi aussi, je la trouvais un petit peu faible, mais je me disais que c'était l'accouchement qui était un peu difficile pour moi. Mais sans me poser plus de questions, pour moi, elle était née à terme, elle était fatiguée. Et puis, il va m'en faire part. Il va me dire, elle m'a dit qu'elle était un peu comme une poupée de chiffon. Et en fait, Maria, ils vont la regarder tout de suite tout de même. On a une pédiatre extraordinaire qui a une connaissance de la maladie, mais ne va pas nous la donner, en fait. Elle va l'observer. Elle va lui faire faire un tas d'examens.
Ça se passe à quel moment, ça? À la naissance, c'est-à-dire au moment où vous avez cet enfant, vous voyez cette pédiatre?
Cette pédiatre qui a un regard déjà sur la maladie en question, mais ne nous donne pas le nom, elle ne nous dit rien.
D'accord.
Elle la surveille, elle lui fait faire plein d'examens. Et puis, le moment le plus dur pour moi, c'est le moment où je dois sortir de l'hôpital parce qu'en fait, il m'harcèle de questions.
Qui vous harcèle?
L'équipe médicale. Il me demande si je prends des stupéfiants. Non. Si je m'alcoolise, non. La cigarette, oui, effectivement, mais pas tant que ça, finalement. Et en fait, ces questions me font peur, je ne comprends pas. Moi, je la trouve parfaite, je ne vois pas les défauts. Parce qu'effectivement, il y a des signes qui viennent, mais on ne le sait qu'après. Et donc, je veux rentrer chez moi, et ils font venir un pédiatre de Clermont-Ferrand, qui va ausculter ma fille, et qui va faire des gestes qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, elle va la soulever par le ventre, et là, effectivement, ma fille tombe les bras, elle ne relève pas du tout la tête, rien. Mais sur le moment, moi, je ne comprends pas. Et elle me rend ma fille et elle me dit qu'elle est désolée. C'est un samedi. Elle est née mardi et on m'annonce que je ne peux pas sortir de l'hôpital, mais on me dit toujours rien. Mais elle est désolée. Donc, crise hystérique, je comprends pas. J'ai l'impression qu'on s'acharne sur ma famille, qu'on veut nous trouver. On est une famille recomposée à ce moment-là. Hein.
Et surtout, il faut se dire les choses. Lorsque, entre guillemets, les pouvoirs publics vous disent oui, est-ce que vous vous droguez, vous êtes ceci, cela, ils rentrent dans votre vie privée, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que l'aide sociale à l'enfant, c'est pas très loin.
Alors, j'en ai pas eu peur sur le coup, mais les questions m'ont fait peur. Effectivement, je sais très bien que je ne touche pas de substance, que cet enfant était désiré, on a voulu l'avoir. C'est quelque chose qu'on a travaillé pour avoir. Donc, j'ai trouvé des questions douloureuses sur le coup. Mais donc, voilà, on nous dit qu'on ne peut pas partir, mais on ne nous dit toujours pas pourquoi. Et dans cette journée-là, donc du coup, le papa de Maria est tout de suite venu parce que j'ai fait une crise forcément, une crise d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? On nous veut du mal. Forcément, j'y ai pensé, bien sûr, à la ZEU. Et on nous veut du mal, on est des bons parents. On est... Et puis là, y a toute une armée de médecins qui rentrent dans la chambre et qui commencent à me parler qu'il faut faire des tests. Mais en fait, ils ne disent pas de quoi. Ils me noient toutes les maladies possibles et imaginables, non neuromusculaires. Et le mot hypotonie revient sans arrêt. Alors moi, je cherche. Et je vois, ce que je cherche, moi, c'est ça va se régler à ces 3-4 mois. C'est rien. Je les trouve un petit peu trop sur nous. Pour le coup. Sur l'instant T. Donc on va en néonat, elle est surveillée, et on fait des tests génétiques. Là, on nous parle de génétique. Bon, on n'est pas inquiet, on rentre à la maison le 23 octobre. À la maison, tout se passe bien. Et on me dit, il faut revenir le 22 novembre en hôpital de jour pour les tests génétiques. Mais on ne me parle toujours pas d'amyotrophie spinale.
C'est-à-dire que pendant des mois, vous ne savez pas ce qui se passe, en fait.
Des semaines. Mais d'un côté, je vais vous dire, Mike, je les remercie parce que pendant ce petit mois, j'étais une maman normale. Qui s'occupait de sa fille sans avoir peur de rien. J'avais pas peur qu'elle meure, parce que pour moi, elle venait de naître, c'était la vie. Donc je les remercie pour ça quand même, de ne pas me l'avoir dit tout de suite, en vérité. Et puis, le 20 novembre, son papa rentre du travail, il regarde Maria, et il trouve qu'elle tire au niveau de la poitrine. Moi, je ne le vois pas, je ne m'inquiète pas. Et quand je la tourne donc, sur le ventre pour lui attacher son pyjama, il me dit, il y a une bosse dans son dos, donc au niveau de la nuque. Je dis, ben non, elle a rien. Il me dit, appelle le SAMU, il y a quelque chose là. Donc j'appelle le SAMU, j'explique. Et ils me disent, mais elle a rendez-vous quand? J'ai dit, dans 2 jours. Et ils me disent, d'accord, bon, ça peut attendre 2 jours. En même temps, ils ne sont pas au courant, et nous non plus, de ce qui est en train de se passer en fait. Et 2 jours plus tard, Maria est déjà entre la vie et la mort. Elle a un poumon qui est obstrué. Et à ce moment-là, nous n'avons toujours pas les résultats de la génétique. Il faut refaire des prises de sang. Parce qu'ils n'ont pas tout fait. Et le 24 novembre, elle est du coup transportée au CHU. On ne sait toujours pas ce qui se passe. Elle est en réanimation, une première pour nous. Et 5 jours plus tard, nous apprenons dans un bureau avec plusieurs médecins que notre fille, entre la vie et la mort, est atteinte de l'amyotrophie spinale. Et ce qui est juste hyper douloureux pour nous, c'est que la veille, j'ai photographié cette maladie. Je cherchais, moi aussi de mon côté, mais c'est quand même bizarre, ils n'arrêtent pas de parler d'hypotonie. Et j'ai vu l'amyotrophie spinale. Le papa a toujours la photo. On a pris en photo et il m'a demandé, mais pourquoi tu prends cette photo? J'ai dit, oh, t'inquiète pas, la pasta, notre fille, elle va pas mourir. Et le lendemain, quand elle m'a dit amyotrophie spinale, j'ai fait le lien. Une fois que l'annonce est faite, ben forcément, nous, on est au bout, on va perdre notre fille, mais on nous propose un traitement qu'on a accepté. Donc, c'est le Spiranza, c'est un traitement intrathécal. Donc, 4 charges en 1 mois et ensuite une charge tous les 2 mois. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose à faire. Donc j'ai fouillé et j'ai trouvé. J'ai trouvé la thérapie génique. J'ai écrit au président de la République actuelle, qui était en place déjà en 2019, qui ne m'a pas répondu. J'ai écrit à son épouse, qui m'a répondu.
Qu'est-ce qu'elle répond?
Elle me dit dans son courrier qu'elle prend connaissance de ce que je viens de lui dire, que c'est aussi une maman, c'est une maman qui s'adresse à moi, et qu'elle va essayer de voir ce qui se passe. Elle va se renseigner. J'écris aussi à un autre professeur qui n'est plus en France, que je peux citer, je pense, qui ne travaille plus ici, le professeur Laurent Servet, qui a été un des pionniers de l'amyotrophie spinale, qui a été un moteur pour moi, il le sait, que je passe ici, et qui est aujourd'hui professeur à Oxford et qui a beaucoup travaillé sur cette maladie. Je lui écris, je lui dis, mais attendez, je ne comprends pas, nous avons un essai dans un tiroir et personne ne le sort, personne n'essaie. Et il me dit, effectivement, en Belgique c'est fait, mais ce n'est pas encore ici. Donc ça, c'était en janvier. Et au mois de mars, l'essai sort. Donc ça, c'était déjà un miracle pour nous, mais Maria ne l'aura pas, puisque Maria est déjà sur un essai clinique, intrathécal. on continue le combat. Et puis là, je me rends compte que dans cette maladie, comme l'issue est fatale et dramatique, il y a les parents qui se battent, mais qui se battent pas, qui vont pas plus loin. Parce qu'il faut savoir que 1 an avant Maria, quand l'enfant était atteint d'amyotrophie spinale, on mettait l'enfant dans les bras des parents et on leur annonçait que leur enfant allait mourir et qu'il fallait rentrer chez eux et attendre que ça se passe. Et cette fatalité, moi, je voulais pas y être confrontée. Je savais que ça existait, et il y avait des choses à faire. Et donc, j'ai pensé au test de Guthrie. Donc, le test de Guthrie, c'est un test buvard à la naissance du bébé, à jour 2 de vie. On va leur prendre une petite goutte de sang au talon et on va détecter des maladies génétiques et d'autres maladies un peu plus graves. Et donc, pour moi, c'était la solution, puisque la thérapie génique arrivait en autorisation temporaire sur notre territoire et détecter plus tôt, traiter plus tôt la maladie stoppée. Donc, j'ai mis une pétition en ligne. Mon histoire a été lue à l'Assemblée nationale grâce à la FM Téléthon et des gens qui sont actifs. Et en 2023, il y a un premier pilotage, le DESPI-SMA, donc, où en Nouvelle-Aquitaine et en Grand Est, on va commencer à tester des enfants. Et sur 16 enfants testés positifs, il y en a 11 qui vont recevoir le Zolgène-SMA, donc c'est le nom de la thérapie génique, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. De ce fait, c'est accepté à partir du 1er septembre 2025 sur tout le territoire français.
C'est une sacrée avancée.
Oui, c'est énorme. Sauf que moi, je pense qu'à partir de là, je peux dormir tranquille. Donc, à partir du 1er septembre 2025, je me dis, on a gagné. On a fait ce qu'il fallait. Des parents aussi se sont battus avec nous, la FM Téléthon, etc. Et donc, je dors bien jusque-là, au mois de mai, où j'ai une maman qui vient témoigner sur mon live et qui m'annonce qu'il se passe des choses et il faut qu'elle me parle. Je suis d'accord, moi je ne vais pas regarder les chiffres parce que j'ai confiance. Je me dis c'est bon. Et en fait, nous apprenons que sur ces 16 enfants déjà du premier pilotage, 5 n'ont pas été traités. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont eu un autre traitement que la thérapie? On ne sait pas. Ces chiffres-là sont cachés. Et depuis le mois de
Mais s'ils n'ont pas
septembre,
été traités ils ont peut-être eu autre chose,
on n'est pas au courant.
est-ce que vous n'êtes pas au courant?
Non.
On ne sait pas s'ils vivent encore,
On ne sait
si
rien.
on ne savait rien du tout.
Voilà, et c'est ce qui me. C'est ce qui me chagrine, c'est que même depuis le mois de
Pourtant, les
septembre,
Téléthons, c'est quand même des Français qui
qui
font
cherchent,
des dons
oui,
à des chercheurs, et donc c'est l'argent des gens. Et du coup, là, visiblement, n'a pas été utilisé pour ces 5 enfants.
en tout cas, il y a 5 enfants, on ignore complètement s'ils ont reçu un traitement ou pas, ou si ces enfants sont toujours en vie aujourd'hui ou pas. Il n'y a aucun chiffre public sur les décès des enfants, et ça, par contre, c'est quelque chose qui questionne beaucoup de parents. Beaucoup de parents, même des parents qui aujourd'hui ont des enfants qui ont des traitements réguliers, mais qui ne veulent pas parler, puisqu'ils ont peur de ne plus avoir le traitement régulier. Donc, du coup, ils ne disent rien et ils témoignent, mais de façon anonyme. Et moi, je leur ai promis de porter leur voix, parce que moi, aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus Maria, mais par contre, il y a d'autres parents qui peuvent perdre leurs enfants. Et depuis le mois de septembre, donc, on parle de 18 positifs. Et c'est pareil que 13 enfants ont reçu la thérapie génique, donc au bout de entre 21 et 27 jours de vie. Ça, c'est des données publiques hein, qu'on peut retrouver sur la FM Téléthon, hein, ce que je vous dis. Et on en a 5, on ne sait pas.
Est-ce que cette maladie, est-ce qu'il y a une recrudescence, cette maladie,
Alors,
depuis quelques années?
non, on reste toujours entre une naissance sur 7 à 10 000 naissances. Enfin, un cas sur 7 à 10 000.
D'accord.
On va peut-être trouver une vingtaine de cas, mais vu que là maintenant on va le dépister beaucoup plus tôt, dès la naissance, là on va avoir effectivement la courbe qui va monter. Effectivement.
Alors, vous avez perdu Maria. Quand on perd un enfant, c'est quand même un drame absolu.
Ah
Est-ce
oui.
que est-ce qu'elle aurait pu être sauvée malgré tout?
Aujourd'hui, moi je suis convaincue, si on m'avait écouté sur la prise en charge respiratoire, elle serait là.
Bon,
Alors,
qu'est-ce qui s'est passé sur la prise en charge?
on prenait pas. En fait, si vous voulez, on m'a dit dans un couloir, sans citer la personne, quand je parlais de toutes ces avancées, on m'a dit, mais madame, si on continue à faire comme vous dites, on va créer le handicap.
Ah bon?
Oui, dans un couloir, on m'a dit ça, oui. Et j'ai dit à cette personne, madame, il faut ouvrir votre temps. On est en 2019, il serait peut-être temps d'aller chercher les vrais traitements, ce qui existe, ce qu'il y a à faire pour nos enfants. Si l'enfant est dépisté, à J2, enfin à 2 jours de vie, il a donc ce test de Buvard. À 7 jours de vie, on a les résultats. On peut traiter l'enfant.
Oui, mais ils n'ont pas fait par quoi? Par incompétence, par envolée je sais pas moi, parce que on sait comment ça se passe dans la fréquence de
L'histoire
l'équipe.
naturelle de la maladie à l'époque de Maria voulait que ses enfants décèdent.
Ah voilà, c'est-à-dire que voilà,
c'est exactement ce qu'on
pas
m'a
de
dit.
Chance quoi, en gros.
On m'a dit, l'histoire naturelle de maladie veut que votre enfant décède avant ses 2 ans, malgré qu'elle ait reçu un traitement. Parce que le traitement, on l'a vu des choses. Elle a tenu sa tête, elle a bougé ses mains, elle a bougé ses jambes, elle se tenait assise, elle arrivait à faire des roulades. Alors, dit comme ça, mais pour nous, c'était un miracle de le voir, parce qu'on pouvait la poser au bord de la table, elle ne serait jamais tombée, parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Mais on a vu des choses bouger au niveau de sa motricité, elle a récupéré quelque chose. Mais au niveau de la respiration, je le redis encore aujourd'hui, et ça j'en suis convaincue, si on m'avait écouté dès le départ, aujourd'hui Maria serait encore là.
Attends, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, la respiration?
Eh bien, mettre en place des systèmes de respiration pour en fait pouvoir, parce qu'en fait quand les enfants sont en myotrophie, un rhume, nous on va se moucher, eux ils peuvent pas se moucher, mais tout descend sur les poumons, bronches et poumons. Et donc si le poumon s'obstrue, on peut plus respirer. Et en fait, il aurait fallu des machines adaptées à ces nouveau-nés pour qu'on puisse. Et ça existe.
C'est juste. En 2018, ça existait.
Bah, bien sûr, ça existe. Il faut juste des bons paramètres et c'est tout. Hein. De façon à ce qu'on puisse. Le poumon puisse se développer pour enlever ces mucus, en fait.
Et est-ce que derrière ça, il y a peut-être le fait que. On le voit aujourd'hui depuis quelques années. Depuis allez, 15-20 ans, on voit l'hôpital. Il y a beaucoup de moins en moins d'investissements. Je dirais aussi depuis, Monsieur Macron, l'enfant est aussi le parent pauvre. Je le remarque et on le voit aujourd'hui avec le drame de la petite fille qui a été assassinée.
Diana.
Voilà. Est-ce que tout ça, mis bout à bout, fait que voilà, comme ils disent dans l'administration, c'est un dommage collatéral?
Ah mais c'est sûr. Mais même au niveau des soins, même au niveau... Sans citer l'hôpital, mais ils se reconnaîtront s'ils savent que je passe à la radio. Moi, j'ai fait une lettre ouverte, je me suis fâchée avec le directeur de l'hôpital. En plus, j'apprends qu'il n'est pas médecin, hein, ni le directeur de soins.
Les directeurs d'hôpitaux ne sont jamais médecins.
Les directeurs de soins, moi, ça m'a mis hors de moi. On parlait d'un cas lambda, il n'appelait pas ma fille Maria. Il a fallu que je tape du poing, elle s'appelle Maria quand même, elle est dans votre service. On avait un kiné pour 15 services. C'est quoi ça? Elle avait besoin de 3 séances de kiné minimum par jour.
C'est-à-dire que on nous dépouille par les impôts, les taxes, etc., les amendes de notre argent. Et cet argent, on se demande où il va. En tout cas, il ne va pas à l'hôpital. Il ne va pas à l'hôpital, il ne va pas à l'école, il ne va pas, je sais pas moi, chez les personnes âgées. On se demande où il va.
Alors moi, j'ai envie de vous dire, pour refaire les structures, ils savent faire, hein, quand c'est tout beau, tout neuf, mais on n'a pas les médecins compétents. Et ça, c'est la vérité. Je ne serais pas tombé sur cette pédiatre avertie. Dans un CHS tout court, hein, qui avait déjà eu un cas auparavant, on aurait traîné. Hein. Vous savez que les pédiatres d'aujourd'hui, enfin, pas ceux d'aujourd'hui, ceux d'avant, n'ont jamais été formés sur ce type de maladie, alors que c'est les premiers à voir l'enfant, à leur faire les réflexes et tout ce qui va avec. Il y a tellement de parents, tellement d'enfants qui ont été diagnostiqués tellement tard, c'est terrible. Et je suis certaine que il y a des enfants qui sont amyotrophie spinale, qui sont décédés sans être diagnostiqués. On a mis ça sur la mort subite du nourrisson. J'en suis certaine aujourd'hui.
Je me dis qu'est-ce qui vous veut dire ça?
J'en suis certaine parce que c'est ce qui se passe. L'enfant arrête de respirer. Le cœur s'arrête. C'est ce qui est passé pour notre
fille. Mais quand il y a mort subite de nourrisson.
Il y a même pas de. Il se passe rien derrière.
Oui, mais parfois les services se disent ah, mais y a pas, est-ce qu'il n'y a pas eu maltraitance? Est-ce qu'on n'a pas mis l'enfant sur le ventre la nuit? Enfin, vous voyez quoi.
Oui.
Et ils mettent souvent la faute aux parents parfois.
Ils ne vont pas chercher. Vous savez, moi j'ai une grande sœur qui est décédée avant moi, je ne l'ai pas connue. À l'époque, on ne détectait pas la myotrophie spinale. Quand ma mère m'a raconté ce qui s'était passé, je suis quasiment sûre qu'elle avait la myotrophie spinale. Parce que ça ressemblait beaucoup à ce que ma fille a vécu. Du mal à s'alimenter, elle s'étouffe avec ses biberons. Mais à l'époque, c'était une biopsie du muscle, mais là, on faisait rien, elle avait 1 mois et demi. Donc, et mon père n'a jamais voulu faire les tests pour savoir s'il était porteur ou pas. Donc, du coup, ça se trouve, ma sœur avait la myotrophie spinale. Mais à l'époque, on n'allait pas chercher. Cette maladie, on l'a reconnue quand la cause de la maladie en 1995, grâce à l'hôpital Necker. Mais avant, ils ne cherchaient pas plus loin.
Oui, mais moi, ce que je trouve fou dans votre histoire, c'est que derrière, il y a toujours les dysfonctionnements. En fait, on a l'impression que la société entière dans son ensemble, la société française entière dans son ensemble, dysfonctionne. Et les gens, en plus, ils attendent toujours quelque chose de l'État. Ils ont l'impression que l'État va les protéger, alors qu'en fait, l'État s'en fiche complètement.
Mais oui, bien sûr qu'il s'en fiche.
Et d'ailleurs, moi, je trouve fou qu'on vous laisse comme ça. Ah, mais votre fille, c'est une poupée de chiffon. Ah, mais vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas droguée, madame? Un peu comme si une femme a violé, dit, allez au commissaire, on dit, ah, mais madame, quand même, vous étiez habillée d'une manière. Vous voyez, on a l'impression qu'on veut rejeter plutôt la faute sur vous.
Sur les parents.
En se disant, mais nous, on a été clean, voilà, c'est eux, ils sont bizarres.
C'est ça. Non, mais moi, elles sont venues à deux, je me rappellerai toute ma vie, elles sont assises, elles m'ont demandé. Si je fumais, j'ai dit oui, la cigarette, enfin, on parle pas de cigarette. J'ai dit pardon. J'ai dit, on parle de quoi là? J'ai dit non, madame, jamais. Enfin, non, j'ai un enfant, je vais pas. Et ça m'a choqué là, au début, comment ils ont fait avec nous. Après, j'entends bien, ils peuvent pas nous dire ce que c'est, parce qu'il faut des preuves de ça. Mais il aurait fallu être plus délicat, effectivement.
Maria, elle était belle en plus, ouais. Je la vois sur la photo. Voilà, je la montre. Elle est magnifique.
Elle avait un beau regard. C'est tous les amis de Truffy Spinal. Ils ont tous un très beau regard.
Et le temps que vous étiez avec elle, ça doit être un temps merveilleux.
C'était surtout à l'hôpital, parce que du moment où j'ai accepté, on a accepté.
Oui, mais vous l'avez, sa présence.
Ah oui, 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 même elle savait se faire entendre à sa façon. Maria n'aurait pas été verbale, je pense. Mais elle était là avec nous, très intelligente, elle comprenait tout. Mais oui, oui, chaque moment qu'on a pu passer avec elle, c'était bien. C'était très bien même. On aurait pu en passer plein d'autres d'ailleurs.
En tout cas, elle savait qu'elle était entourée.
Ah oui. Ah oui, elle était, connaissait ses parents. Après, elle a passé 2 mois à la maison, mais pas 2 mois entiers. Un mois entier, et après c'était saccadé, c'était quelques jours, puisqu'elle redécompensait très vite, il fallait très vite la ramener à l'hôpital. Donc même pour son baptême, même pour Noël. On a dû l'avoir 2 heures à la maison. Et encore, j'exagère quand je vous dis 2 heures.
Elle a connu ses frères et sœurs?
Oui, oui, oui. Ses petits frères, elle l'aime toujours. Et puis, ils avaient 9 ans quand elle est décédée. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour eux parce que... Et c'est, ça aussi, c'est un beau message qu'il faut faire passer. On regarde notre chagrin en tant que parents. Il faut regarder les frères et sœurs parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé qu'eux aussi étaient en deuil, finalement. Et ils l'ont pas bien vécu.
Mais justement, comment ils ont compris ça?
Alors, mon fils ne l'a pas su de ma part, puisque Maria avait un groupe, était suivi par plus de 10 000 personnes dans ma région, en Corrèze. Et j'avais annoncé le décès de Maria sur ce groupe. Et en fait, il y a une maman, c'est pas méchamment dit, elle a dit à son fils, surtout s'ils sont à l'école, les garçons, tu restes avec eux, tu les accompagnes. Et en fait, ce garçon est arrivé vers mon fils et lui a dit « Je suis désolé pour ta petite sœur, mes condoléances. » Et mon fils a dit « Ben non, ma mère, elle m'a rien dit. » Et en fait, il a été très en colère après moi pendant longtemps parce que c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit à ma place. Et on a eu beaucoup de mal à leur dire. On a mis 24 heures à leur dire. On ne savait pas comment leur dire parce que c'est leur petite sœur, c'était toute leur vie. Mes grandes à moi étaient déjà au courant, nos grands aussi, mais les deux derniers, c'était très dur.
Comment justement, lorsqu'on a des enfants... on gère ces situations parce que j'imagine que c'était excessivement dur pour des enfants qui sont jeunes de comprendre ce qu'est la maladie de leur petite sœur, leur petit frère.
Ils se sont alors c'est dur ce que je vais dire, mais c'est vrai, ils se sont effacés pour elle. C'est-à-dire qu'ils comprenaient que je passe toutes mes journées avec elle, qu'on aille tous les soirs avec elle. Ils comprenaient, vraiment. Hein. On a aussi les parents de l'autre côté qui ont été aussi compréhensibles, qui se sont beaucoup occupés d'eux aussi, parce que c'est des familles on est une famille recomposée. Donc, mais ils ont été extraordinaires. Jamais ils nous ont fait un seul reproche du temps qu'on pouvait passer avec Maria, bien au contraire. Ils venaient les week-ends avec nous, la voir, passer les week-ends là-bas. Mais ils ont été extra, quoi. Même sur leur chagrin, ils ont été extra. Jusqu'au jour où ils nous ont dit qu'ils avaient peur de l'oublier. Et on les a rassurés, on a dit « tu l'oublieras jamais ». Et après, Clara est arrivée derrière aussi. Donc, ça n'a rien réparé, mais ça a permis aux garçons de pouvoir quand même être grand frère et continuer avec une petite sœur.
C'est dur, mais ça prouve quand même que les familles en France sont résilientes, elles sont fortes. Et il faut dire, parce que j'imagine que peut-être certains des auditeurs qui nous écoutent vivent aussi ce type de situation. Mais... Quand on connaît votre histoire, quand on lit ce livre, on se dit aussi que on est vraiment petit par rapport à cette administration, cet hôpital, l'État, etc.
Mais c'est encore le problème aujourd'hui. Comme je t'ai dit, il y a 5 enfants qui n'ont pas été traités. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? En tout cas, s'ils n'ont pas reçu le gène comme c'est prévu de base, pourquoi? On ne sait pas ce qu'ils ont reçu. Pourquoi on n'a pas de chiffres sur ça? Pourquoi ce n'est pas rendu public? Alors, il y a des suppositions.
Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Bah, justement, les suppositions, quelles seraient-elles?
Les suppositions, si on préfère montrer, que les belles choses. Tu sais, Mike, moi, il y a une année où il y a la première autorisation temporaire sur le génétique, c'est un type 1 bis. C'est-à-dire qu'elle fait un peu plus que le 1. Bon, il n'y a rien de différent pour moi. Elle reçoit sa thérapie génique. On s'est battu pour ça. Et elle est invitée sur le plateau de la FM Téléthon. Et puis, elle m'en parle. J'ai dit, je suis désolée. Nous, les parents deuillants, on n'a pas notre place. Il n'y a jamais un mot pour nous. Mais bizarrement, cette année-là, on a eu un mot. Un mot pour nous. J'ai rien à y faire. Moi, j'ai perdu ma fille. J'ai rien à y faire. Ils ne pensent jamais à nous. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un mot pour nous. Parce que nous, les parents, on est des parents oubliés. Sauf que c'est des parents comme moi qui se battent tout le temps pour ceux qui arrivent derrière nous. Et c'est important parce que moi, c'est une promesse qu'on a faite à notre fille. On se battra. 18 enfants positifs, 18 enfants traités. Il n'y a pas de raison de ne pas les traiter. Je ne comprends pas le deal. Là.
Mais est-ce que ça coûte peut-être très très cher
Alors c'est devenu. C'était le premier médicament plus cher au monde. C'est devenu D'accord. Le deuxième médicament, ce qui est encore beaucoup plus cher, qui a 2 millions d'euros, effectivement. Mais quand tu sais que ce médicament, c'est nos chercheurs français qui l'ont trouvé. Et là, c'est ma plus grande colère. Et qu'ils leur ont vendu 5 milliards à un laboratoire pharmaceutique qui, eux, ont été capables de le tester aux États-Unis parce qu'ils ont une belle paire, contrairement à nous. Et après, ils nous le revendent à nous 2 millions. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on aurait voulu traiter Marine nous-mêmes, il fallait qu'on sorte 2 millions de notre compte en banque. Plein de parents ont fait des cagnottes. Mais ils ne sont jamais arrivés aux 2 millions, leur enfant est décédé. On partait à la course, à l'espoir.
Alors là, ce que tu dis, c'est complètement dingue. Pour le répéter, pour que les gens comprennent. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs français.
Oui,
ils ont trouvé un remède grâce au Téléthon.
Exactement, Téléthon, Généthon, oui.
Voilà. Et ce remède a été vendu aux Américains. Pourquoi il a été vendu aux Américains?
L'argent.
Bon, il a été vendu 5 milliards aux Américains. C'est-à-dire que des Français ont investi pour ce remède. Il a été vendu aux Américains et il nous l'est revendu à nous maintenant 2 millions d'euros pièce.
La dose.
Et combien de doses il faut?
Une seule. Une heure et demie, intraveineuse. En fait, ça va délivrer un gène qui va reconstituer le gène doucement.
Mais ça, c'est un scandale sans nom.
Mais bien sûr. Mais c'est dénoncé depuis longtemps. Je n'arrête pas.
J'ai jamais entendu. Personne l'a jamais entendu.
Je
l'apprends.
Je crie pas assez fort. Ah non. Et le laboratoire en question, il est très connu. Et le laboratoire en question, il a reçu des mails de ma part en lui demandant s'il n'avait pas honte.
C'est quel laboratoire?
Novartis. Voilà. Et c'est honteux. C'est honteux. Maintenant qu'on le vende aux Américains.
Surtout que c'est pas un investissement de leur part.
Mais bien sûr.
Parce que c'est un investissement Téléthon.
C'est nous. Ben oui, bien sûr. C'est au Généthon qu'ils l'ont trouvé.
Mais comment se fait-il qu'ils s'arrogent comme ça le droit de prendre quelque chose et de le revendre et de faire,
Américains,
5 milliards d'euros de bénéfices?
Les Américains ont les coronesses, excuse-moi du terme, pour l'essayer sur les enfants, eux. Parce que notre système à nous, à HAS, la Haute Autorité de la Santé, il y a tellement de protocoles, c'est tellement chiant à faire qu'ils ne prennent pas.
Attends, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas le laboratoire. Enfin, le laboratoire quand même fait un bénéfice, mais ce n'est pas à cause du laboratoire 100%. Il n'a pas été testé en France.
Mais parce que notre pays est très compliqué là-dessus. Et
pourquoi
compliqué.
Qu'est-ce qui se passe?
Je n'en sais rien. Là, il faudra vraiment leur poser la question.
C'est-à-dire quel est le protocole de test en France?
Je ne le connais pas. Même là, j'aimerais bien l'avoir sur le DSPSMA. Je le cherche. J'aimerais comprendre les choix qu'ils font entre les enfants. Qui sont-ils pour avoir un droit de vie ou de mort sur eux? En sachant qu'aujourd'hui, on peut les sauver. La solution, elle est là. On l'a trouvée, elle est là. Elle est devant eux. Et ils se permettent de ne pas le donner à 5 enfants. Alors, les États-Unis, ils testent tout ce qu'on a essayé chez nous, tout ce qu'on a aujourd'hui chez nous.
Ils ont tout de suite testé, c'est-à-dire qu'ils ont eu la molécule, ils ont tout de suite testé.
Ah oui. Ils ont un neurologue, alors le nom je ne l'ai plus, mais tu le trouveras. Il est extraordinaire ce neurologue, j'aurais tellement voulu le rencontrer avant. Il est extraordinaire, il a sauvé je ne sais pas combien d'enfants. Et une fois que ça marche là-bas, tiens, ça marche bien là.
Mais alors du coup... Comme on nous dit que la solidarité nationale, nous payons pour la solidarité nationale. C'est-à-dire que nous payons des cotisations pour que Maria puisse avoir ce médicament. Donc les 2 millions d'euros, c'est de votre poche ou c'est la sécurité sociale qui finance?
Non, au moment de Maria, c'est de nous.
Tous les aujourd'hui parents,
aujourd'hui, c'est une autorisation temporaire. Aujourd'hui, ils le donnent. C'est bon. Mais ça ne pourrait ne pas tenir.
Pourquoi?
Parce que s'ils ont envie de l'arrêter, ils l'arrêteront. Ça, c'est à leur bon vouloir. Mais il faudra pas le faire. Parce que je serai là. Il faut continuer à le donner. Il faut arrêter de faire des choix sur les enfants. C'est ça que je demande. Je demande vraiment aux autres autorités de la santé, aux ministres de la santé, de se pencher là-dessus. Et de donner de vrais chiffres, de ne pas nous cacher les
Mais est-ce
décès.
que vous avez pu le contacter, ce monsieur?
Non. Non, moi, je suis très fâchée avec tout ça maintenant. Parce que ça va nous endormir, ça ne nous rappelle jamais. Ça ne nous endort pas. Ça nous endort, en fait. Donc aujourd'hui, ben voilà, la radio pour ça, mais pas que. Je vais aller beaucoup plus loin. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est public. Donnez-nous les vrais chiffres. Donnez-nous, dites-nous pourquoi il y a des enfants qui ne reçoivent pas le
Mais qu'est-ce
traitement.
qu'ils répondent lorsque l'on leur pose la question?
Aucune. Zéro.
Ils répondent pas
Ah
du
ben
tout, ils
bien
font les
sûr que.
morts.
Bah oui. C'est passé à l'Assemblée nationale, c'est bon, c'est déjà en pilotage. Non, il faut plus de réponses que ça. Montrez-nous tout. Arrêtez de nous mentir. Dites-nous que reçoivent les 5 enfants et s'il y a des décès. Parce que ça fait partie du pilotage, ça doit être rendu public. La FM Téléthon, c'est l'argent du contribuable, comme vous dites. Donc, ils doivent tout nous montrer, ils ne doivent rien nous cacher.
Ça va au-delà du contribuable, parce que c'est des gens qui... Bon, ils peuvent payer des impôts, pas des impôts, mais ils font en plus le pas de faire le don au Téléthon.
Ah ben oui, bien sûr,
Donc ça va
c'est d'eux-mêmes
au-delà de
en
ça,
plus,
quoi.
mais
Voilà.
c'est le cœur qui parle. Aujourd'hui, ils doivent savoir que les chiffres, on ne les a pas, et vous pouvez regarder sur les sites.
Mais s'il y a eu 50 enfants qui ne sont pas traités, ça veut dire qu'à l'avenir, il y aura encore des 5 et 5 et plus d'enfants qui ne sont
À
pas
chaque fois,
traités.
c'est 5 enfants, Mike. J'ai regardé. Le premier pilotage, 5 enfants, là, 5 enfants. Qu'on ne parle pas du nombre de copies, parce qu'on va nous dire, oui, sur le gène, comme il y a différents types de hamstring spinal, il y a 2, 3 ou 4 copies. Maria avait 2 copies. Donc, type 1. Ça, j'en ai rien à faire parce que le deal, c'était de traiter tous les enfants. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce qu'on a tous demandé. De traiter les enfants dès la naissance pour éviter qu'ils développent la maladie. Voilà.
Bah, je veux dire, connaissant un peu l'État, comment il travaille, ils ont vu 5 enfants, 2 millions d'euros par enfant. Ils ont dit, ah, c'est 10 millions, c'est chaud, on va faire une économie.
Donc, nos enfants. Ont une valeur pour
Mais
l'État,
évidemment.
mais tu as raison. Parce que à l'époque, ils ne voulaient pas soigner nos enfants, et c'était une réflexion que j'avais faite à Madame Macron. Je lui avais dit, elle pensait que je lui demandais de l'aide financièrement, que ce n'était pas du tout le cas. Hein. Et je lui avais dit, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas soigner nos enfants, mais vous ne voulez pas non plus qu'on les enterre dignement. Nous, on l'a enterré notre fille dignement, mais on a eu des parents qui ont enterré leurs enfants parce que ça coûte cher. Il n'y a pas de cotisation à la sécurité sociale. On ne cotise pas à la retraite hein, quand on a un enfant malade. En tout cas, moi, à l'époque, on m'a refusé les 7 mois. Parce qu'elle était sous MDPH et que je n'avais pas cotisé, elle n'avait pas eu un an. C'est pas grave. Mais il y a des parents qui ne peuvent pas enterrer leur enfant dignement. Parce qu'ils sont décédés jeunes. Forcément, ils n'ont pas cotisé. En plus, ils étaient malades. Donc, ils ont coûté un peu d'argent. Et bien, il y a des parents qui n'ont pas pu faire les choses correctement, que nous avons aidés. Mais.
C'est-à-dire que comment ils les ont enterrés?
À même la terre.
À même la
À
terre.
même la terre, un pauvre terrain, à même la terre, alors que c'est pas forcément ce qu'ils voulaient avec pour leurs enfants. Nous, on a de la chance, on est entouré, on a des amis, de la famille, on a fait ce qu'on a voulu pour notre fille, mais il y a des parents qui nous appelaient désespérés.
Est-ce que, Charline, tu sais que les députés et sénateurs ont, lorsque un membre de leur famille décède, ont l'enterrement gratuit?
Et nos enfants. Et nos enfants là-dedans. Arrêtez d'enterrer vos familles, enterrez nos enfants. Enfin, ça coûte cher. Hein. Nous, on s'en est rendu compte. 7 000 euros. On a payé 7 000 euros pour un bébé. Et ceux qui ne peuvent pas, on leur dit quoi? C'est pas normal. Alors, on va les rediriger vers les instances sociales. Et la dignité du parent, il est où? On devrait, pour ces parents-là qui perdent leurs enfants, on devrait leur offrir l'enterrement, effectivement. Parce qu'il y a ça, il y a les dettes après qui s'accumulent. Si on ne paye pas, il se passe quoi? Et moi, ça m'inquiète parce que même après, personne n'est accompagné. Nous, on a été accompagnés. Je me cite très bien et tout, mais il y a des parents qui ne sont pas accompagnés, qui sont livrés à eux-mêmes. On ne leur explique pas.
Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire...
Alors moi, j'ai accompagné pendant encore 3 ans après le décès de Maria.
Ouais.
J'ai accompagné pendant 3 ans. D'ailleurs, tout le monde me croyait que j'étais folle de faire ça, mais il fallait le faire. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai aussi mon chemin à faire, le mien. Mais pendant 3 ans, j'ai eu des mamans enfin, très très mal. Qui me parlaient de rejoindre leur enfant, qui me disaient que. Mais je leur
Ah
disais non,
d'accord.
il y a un combat là. Oui, mais ils n'ont rien fait pour nous. Il y a un combat. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas le traitement du tout. En tout cas, à l'époque de Maria, c'était ça. C'était, il y a des parents, il y avait des experts, on parle de 40 experts, alors j'aimerais bien savoir qui sont ces experts, et je te promets que c'est vrai, qui demandait une vidéo de l'enfant dans un bain. C'est-à-dire que si l'enfant dans le bain, parce que c'est, tu vois, ça bouge, c'est léger pour lui, bouge, eh bien, il aura le traitement. S'il bouge pas, il aura pas le traitement.
Ah bon?
J'ai eu, je ne sais pas combien de témoignages comme ça. J'ai dit, mais c'est une blague, j'espère.
Ah, d'accord, c'est-à-dire que. Putain, c'est...
Non, mais
on apprend
c'est
des trucs dans ce pays.
C'est véridique ce que je te dis.
Mais c'est-à-dire que, en gros, c'est la loterie, quoi.
C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'est pas français ça, il ne devrait plus avoir de choix. L'enfant est positif, on le traite. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ils se prennent. C'est ça qui me dépasse, ça me met dans une colère monumentale. Ils décident, ils ont le choix de vie ou de mort sur un nouveau-né, parce qu'il est porteur d'une maladie génétique rare, amyotrophie spinale. C'est pas normal. Si demain, j'ai la solution pour réparer ma voiture, je vais la prendre, la solution. Je vais pas la laisser sur le bas-côté et puis m'en servir. Je suis désolé, je compare un enfant à une voiture, mais c'est exactement ce que fait l'État. L'État choisit qui doit vivre et qui doit mourir. Et c'est la vérité.
Et entre... les pédocriminels, pour qui on ne fait rien. Entre les infrastructures, écoles, hôpitaux, les enfants qu'on laisse mourir. Moi, je me rappelle aussi de la crise sanitaire, où les enfants ont été maltraités à un niveau fou. Mais je le dis, les enfants d'aujourd'hui, déjà, je me demande comment ils vont grandir. Mais c'est vraiment le parent pauvre des politiques publiques de ce pays.
C'est malheureux, hein, il faut qu'il y ait des choses graves pour qu'on regarde un peu nos enfants. Ils ne sont pas en sécurité. Mes grands ne veulent pas d'enfants.
Ils ne veulent pas d'enfants ?
Ils ne veulent pas d'enfants. Ils ont été catégoriques, nous n'aurons pas d'enfants.
Pourquoi ?
La France de Macron. Ils m'ont dit, ils nous ont dégoûtés. Avoir des enfants dans le climat actuel, ce n'est pas possible et je les comprends. Hein. Ils n'en veulent pas.
Quel âge ils ont les enfants ?
Alors, j'en ai une de 25 ans, j'ai une de 21 ans. 19 ans, 17 ans.
Et ils ne veulent pas d'enfants.
Ah non. Ah, c'est catégorique. Ah non, ils m'ont dit on n'aura pas d'enfants dans ce pays.
Dans ce pays où tes enfants partiraient, je ne sais pas.
S'ils vont ailleurs, tant mieux, je serai grand-mère, j'ai envie de te dire. Mais,
ouais.
Mais ici, non. C'est hors de question. Ils voient. Ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils voient tout, puis ils voient la déchéance du pays et tout ce qui s'y passe. Et je les comprends. Mais la natalité est en baisse, ce n'est pas pour rien. Hein.
C'est fou quand même, sachant que ce pays a basé toute sa politique de solidarité nationale sur la naissance, sur la famille. Donc ça veut dire que il y aura plus de famille, quoi. En fait, Macron, faut dire, à un moment, il faut dire les choses. Il est venu en 2017. Comme président, et il a, indépendamment de vendre la France, ça c'est une chose, mais il a cherché à détruire le socle familial. Par contre, on va avoir des Gabriel Attal et des Monsieur Séjourné qui, eux, veulent des enfants. C'est quand même un peu le monde à l'envers. C'est fou, hein ?
Oui, mais c'est comme ça. Maintenant, les enfants ne veulent pas, ne veulent plus avoir d'enfants. En tout cas, moi je comprends, hein. La vie devient dure, enfin, ils augmentent le SMIG, mais pas à la hauteur de toutes les augmentations qu'il y a à côté, deux fois par an en plus, hein, au minimum. Moi, je comprends. Je comprends complètement. Tu sais, moi, pour mariage, j'ai pas pu travailler. J'ai pas pu travailler donc, parce qu'il fallait être auprès de mon enfant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et au moment où elle décède, moi, je suis pas au courant de tout ce qui se passe après... tout ce qui est retraite, parce que je ne m'intéresse pas, puis même la NDPH, j'ai mis très longtemps à l'accepter. Je ne la voulais pas. Pourquoi faire la NDPH ?
C'est quoi la NDPH ?
Alors, la NDPH, c'est ce qui est délivré aux personnes qui sont malades. Et comme Maria était malade et que je ne pouvais pas travailler, du coup, j'avais le droit, en fait, à un salaire. C'est un peu comme aidante. Aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'existait pas.
D'accord.
Aidante. Aujourd'hui, ça existe, et tant mieux pour eux. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas de statut aidante. Donc, ça veut dire que je touchais comme un salaire tous les mois, ce qui me permettait de rester à côté de ma fille. Mais une fois qu'elle est décédée, la caisse d'allocation familiale et la mairie me disent, et la MDPH, ça serait bien qu'on puisse quand même comptabiliser le point retraite pour vous plus tard, puisque là, vous n'avez pas pu travailler forcément, vous étiez avec votre enfant, on va faire la demande, refusée. Ben, moi, sur le coup, ça ne m'a pas touché, je dis, ben, c'est pas grave. Et après, ils m'ont dit, ben si, vous perdez du trimestre. En fait, pour eux, c'est comme si ça n'avait jamais existé.
Toi, ici, on habite, on est ici dans le 16e arrondissement de Paris. Et dans le 16e arrondissement de Paris, pas très loin, il y a le groupe Monterland, c'est une piscine, une piste d'athlétisme, etc. Qu'est-ce qu'a fait la mairie de Paris? Elle a réquisitionné cela pour y mettre des migrants, pour les loger. Je pense qu'ils vont être logés de manière définitive ici, là, alors qu'il y a des écoles qui utilisaient ces matériels. Moi, j'ai appris à nager là-bas. Derrière, il y avait une caserne de pompiers, Barrex Allemands. Ça a été repris aux pompiers et on en a fait des logements pour des migrants. Toi, Aline Delbourg, tu as écrit ce livre et tu vivras toujours parce que l'amour ne disparaît jamais. Tu es française, corrézienne, un beau département. Merci. Le département de Jacques Chirac.
François Hollande.
François Hollande aussi, il était de Tulle.
Oui.
Je connais très bien, il y a Aigleton, je connais très bien Aigleton, Brive, La Gaillarde, etc. Donc toi, tu es française autochtone. Pourtant, on te refuse ce que on accepte pour des gens qui viennent d'arriver hier. Moi, je trouve ça quand même, c'est un peu injuste. Et je trouve qu'on est de plus en plus dans ce pays, dans l'injustice totale. C'est-à-dire que les nôtres, les siens, voilà, ceux qui naissent ici, qui sont enracinés depuis X temps, qui ont des aïeux qui se sont battus pour ce pays, dans toutes les guerres, eh bien, ceux-là, on les met dehors quasiment. Et ceux qui arrivent, je ne sais pas pourquoi, ils ont droit à la solidarité nationale. Parce que c'est pas mal, hein, d'habiter 16e arrondissement. Tu viens d'arriver, tu habites 16e arrondissement.
C'est vrai, c'est beau ici.
C'est pas mal, hein.
Oui, c'est vrai.
Voilà, t'imagines. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une forme d'inversion dans ce pays qui est excessivement choquante. Et quand j'entends qu'en plus, nos enfants qui sont malades ne sont pas soignés, c'est-à-dire qu'on choisit ceux qu'on va soigner.
C'est trop ça.
Mais je me dis, mais où est-ce qu'on va? Je rappelle que Madame Delphine Ernotte gagne 400 000 euros par mois, par an, alors que France Télé est déficitaire de 100 millions par an. Je rappelle toutes les agences qui coûtent 150 milliards d'agences d'État, hein, 150 milliards par an, où les mecs gagnent 10 000 balles par mois, je ne sais pas à quoi faire, à rien foutre évidemment. Ils sont boulevard Saint-Germain, ils ont des chauffeurs, des machins, des, tout ce qu'on veut. Tous ces enfoirés là, du cinéma français qui prennent 1 milliard par an pour leurs films de merde, à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Voilà.
On en soignerait des enfants.
Hein. On en soignerait. Hein. Ah, oui. On en soignerait.
Ouais,
hein. Monsieur Pascal Zadi a pris 80 millions d'euros pour faire ses films qui font 20 000 entrées au box-office. Et putain, mais c'est pas possible ce pays. Mais comment se fait-il que les gens, dans leur ensemble, acceptent tout cela?
Parce qu'ils ne regardent pas. Enfin, nous, on est la France moyenne, quoi. Ils nous voient pas. Ils voient pas nos enfants. Ils voient pas nos combats. Si un enfant demain de l'Assemblée nationale, on va aller au bout. Je vais te suivre là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Est atteint d'amyotrophie spinale. Tu verras que ça bougera. Parce que c'est comme ça. On a eu un député qui malheureusement a perdu son enfant. Il s'est battu pour qu'on puisse avoir 15 jours. Les papas aussi. Il s'est battu pour nous. Merci à lui. Mais s'il était décédé de l'amyotrophie spinale. Est-ce qu'il aurait fait quelque chose pour nous? Et mais en fait, les hommes d'État, c'est ça. T'as complètement raison. Si ça leur arrive pas à eux, ils ne comprennent pas nous. Sauf que perdre un enfant, il n'y a pas besoin d'être homme d'État ou il n'y a pas besoin d'être pauvre, riche. Quand ça arrive, ça arrive. Et t'as complètement raison. Il faut que d'abord que ça les touche personnellement pour qu'ils nous regardent, nous.
Alors on va passer à la seconde partie d'émission. Mais avant ça, les Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être si nombreux comme tous les samedis. Le Bobino, qu'est-ce que c'est? C'est fait, c'est pour vous rappeler que c'est vous les patrons de la Radio Courtoisie. Parce que si nous avions des annonceurs, comme l'ensemble des grands médias nationaux, eh bien, ce sont les annonceurs qui qui choisirait notre programmation. Il faut dire les choses, les annonceurs, ils ne veulent pas que Aline Delbourg présente son livre « Et tu vivras toujours ». Parce que bon, ça ne fait pas vendre des marques, ça ne fait pas vendre Ariel, ça ne fait pas vendre des bagnoles, etc. Grâce à vous, on est totalement indépendant dans notre programmation et nous vous en remercions. Donc continuez à nous soutenir. Voilà, je suis donc avec Aline Delbourg. Elle a écrit « Et tu vivras toujours parce que l'amour ne disparaît jamais ». Voilà, je le montre aussi à la caméra. Sa petite fille qui est née avec une maladie rare est décédée depuis. C'est un vrai drame et donc du coup... n'a pas été prise en charge comme il le fallait. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Souvent, les gens disent « Non, ça ne peut pas m'arriver, ça arrive aux voisins, à ceci. » C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense.
Ah oui. Bah, déjà, nous, on ne connaissait pas, puis on ne s'y attendait pas. Mais grâce au test de Guthrie, ça, il faut le dire quand même, on va pouvoir voir beaucoup plus de cas. Mais ça, je m'en réjouis. Je ne vais pas dire que je ne suis pas contente de ça, parce que c'est une promesse et c'est un combat. Mais ce qui m'effraie, c'est le, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est le nombre d'enfants non traités. Enfin, en tout cas, je dis non traités, mais on n'a pas la connaissance.
Enfin, les tests. C'est normal qu'en 2026, ils fassent un minimum de tests. Je veux dire, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ils font aussi ces tests.
Il a fallu changer la loi sur la génétique pour accéder à ça. Quand
en
même.
Plus.
Ah oui.
En plus.
Oui, oui, il a fallu changer des lois quand même. Il a fallu faire évoluer les lois là-dessus, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus. C'est très structuré, et tant mieux d'un côté, mais vu que le premier pilote, le premier pilotage était très bien passé, entre guillemets, là maintenant c'est au niveau national, et c'est à l'approbation des parents. Donc là aujourd'hui, si tu me permets, je peux dire aux parents qui vont avoir des enfants, ne refusez pas ce test s'il vous plaît. Le test du Guthrie...
Pourquoi il y en a qui refusent ?
Ils sont en droit de le
Pourquoi ils refuseraient un test ?
Parce qu'ils sont en droit de
c'est
le faire.
C'est juste une petite pique sur
le talon, une petite goutte de sang, le bébé ça lui fait pas mal. Hein. Mais il y a des parents qui sont en droit de le faire, c'est leur droit. Alors il y a des parents qui me disent, mais moi on m'a pas demandé mon avis. Bon, d'un côté, j'ai envie de te dire tant mieux, mais d'un autre côté, si. Les parents doivent donner leur consentement, puisque sur le premier pilotage, il y avait 90% des parents qui avaient dit oui pour le faire. Donc ça, c'est un consentement et ça vient des parents. C'est les parents qui choisissent si on peut piquer leur bébé au niveau du talon. Mais moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de voir un 100% maintenant, puisque ça leur fait pas mal. Et ça permet surtout pas que de dépister la myotrophie spinale, mais beaucoup d'autres maladies aussi. Et elle en fait partie. Et sachez que c'est la maladie considérée la plus mortelle actuellement dans la maladie génétique rare. C'est celle qui tue nos enfants, puisque 80% de nos enfants décèdent avant leur 1 an, sans traitement. Maria avait un traitement et elle est décédée avant ses 1 an, à cause de la prise en charge respiratoire qui était nulle. Je le redis ici, nulle. Ils ne m'ont pas écouté.
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire sur la prise en charge respiratoire ?
C'est-à-dire mettre en place...
Mettre des machines autour, comment ça se passe ?
Une machine, en fait, qui va lui délivrer, lui propulser de l'air assez fortement, afin que ses poumons puissent s'expandre, en fait, qui puisse se développer correctement sans que le cul ne vienne boucher. C'est tout ce qui est le poumon, parce que c'est ce qui a fait que notre fille est décédée. Elle a eu, alors, d'après les rapports, c'est une infection, un trou, ils n'ont pas trouvé, mais ça faisait quand même 3 semaines que notre fille avait le poumon droit obstrué et le gauche avait commencé.
Moi, je trouve dingue quand même que toi, tu n'es pas médecin.
Ah non, mais j'apprends.
Tu n'as pas fait d'études, médecine, etc.
Non.
Tu as trouvé des choses que, entre guillemets, le personnel soignant, visiblement, n'a pas trouvé.
Non, n'a pas cherché.
En tout cas, il n'a pas cherché.
Parce qu'il
c'est ça, en fait.
Il est resté sur l'histoire naturelle de la maladie. Qui veut que nos enfants décèdent ?
Tu sais, moi, je vais te dire une chose. Bon, alors, je salue bien entendu les médecins. Il y en a énormément de courageux, de d'empathiques, etc. Par contre, moi, j'ai vécu, comme journaliste en tout cas, cette période crise sanitaire, Covid, et ça m'a un peu, ça m'a un peu freiné vis-à-vis d'eux, parce que moi j'avais l'image des médecins comme tout un chacun avait, et puis j'ai vu, lorsque certains soignants n'ont pas voulu être injectés, eh bien comment ils ont été mis par leurs propres collègues au banc, comment ils ont été insultés, ils ont été...
Maltraités,
oui.
Tu peux le dire.
Faut le dire les choses.
Montrer les doigts, bien c'était dépestiféré.
Moi j'en ai... Et pas que par Olivier Véran et compagnie, mais aussi par les leurs.
Oui.
Et je vois certains aussi, enfin ces insultes. J'ai d'ailleurs été là dernièrement et pas très longtemps à la manifestation des médecins. Je leur ai justement posé la question et ils sont encore dans la rancune, etc. Enfin, je parle des médecins, on va dire de plateau et tout. J'en ai vu, donc docteur Marty, oui. Voilà. Ils sont encore dans une forme de rancune, bon, sauf lorsqu'il s'agit d'aller négocier avec le ministère des primes, à ce moment-là, ils acceptent tout le monde, visiblement. Mais en fin de compte, ce monde de médical, il n'est pas aussi angélique qu'on a bien voulu nous dire.
Non, parce que, encore une fois, ils ne vont pas chercher ce qui se passe.
Et j'imagine qu'ils ont eu un mépris en disant ouais, « mais qu'est-ce qu'elle sait, elle ?» C'est ça?
Alors même pas. Non, moi vraiment, là où on m'a mis un stop, c'est quand on m'a dit dans ce couloir, devant la chambre de Maria, c'était en plus, hein, où je demandais en fait différents examens, pour qu'on puisse aller regarder un petit peu ce qui se passe aussi à l'intérieur, puisqu'elle n'arrivait plus à déglutir. Et quand le médecin qui s'occupait d'elle m'a dit « Oui, mais en faisant ça, on va créer de l'handicap, l'histoire naturelle de la maladie, vu que votre fille décède. » C'est une personne qui était neuropédiatre depuis longtemps. Et là, je lui ai dit « Mais... il faut aller chercher, en fait. Il ne faut pas rester sur ce que vous savez. » Parce que je l'ai harcelé tout le temps. Je vais vous dire la vérité. J'ai envoyé 15 000 mails par jour.
Oui, c'est normal.
Je ne dormais plus la nuit. Hein. Le papa de Maria est là. Il peut en témoigner. Je passais mes nuits entières jusqu'en Chine. J'étais chercher des solutions. Je ne dormais plus. Il fallait que je trouve une solution pour sauver mon enfant. Quand j'ai su que je ne savais pas que je ne sauverais pas mon enfant, il fallait sauver les autres derrière.
Ben justement, quand tu as su... qu'en fait, on te mettait des bâtons dans les roues pour sauver ton enfant.
J'ai fait
comment
intervenir Brigitte Macron. Voilà. Le dimanche.
Est-ce que ça a apporté quelque chose?
Extraordinaire. Le dimanche. Donc du coup, Marie a décidé un jeudi. Donc le dimanche d'avant, je lui envoie un mail. Je lui dis, Madame Macron, mon enfant est en train de mourir devant moi. Il faut m'aider au secours. Dès le lundi, ça a bougé dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai eu le cabinet, à l'époque, c'était Madame Buzyn.
D'accord.
Qui m'a contacté. Donc Sabrina, c'était son prénom. Elle m'a contacté, elle m'explique un peu ce qui se passe. Le mardi soir, donc le 4 juin, il contacte les neuropédiatres en charge du dossier. Ils se prennent un savon, apparemment, puisque le mercredi, on prend une petite critique. Oui, je comprends pas, je suis dérangée à 19h. Donc ça, c'est les neuros qui nous disent ça. À 19h, par le ministre directement de la Santé, concernant Maria. Et elle me dit que c'est qui la prochaine, c'est Brigitte. J'ai dit oui, madame, c'est Brigitte. Effectivement, vous avez raison, ce sera Brigitte. Et en fait, ce jour-là, elle devait recevoir une injection de Spiranza, donc intrathécale. Elle n'a pas pu la recevoir puisque Maria avait 42 de fièvre, avait un cœur qui pulsait à 240 et risque de méningite. Donc le 5 juin, elle n'a pas pu recevoir cette dose. Et à partir de là, son dossier part dans tous les neuropédiatres de France. Tout le monde la regarde. Tout le monde regarde un petit peu ce qui se passe. Et le lendemain matin, 8h30, Maria s'endort pour toujours et... une heure plus tard, nous avions un accord pour un essai.
C'est-à-dire que ça s'est joué en une heure.
Ça ne l'aurait pas sauvé. Même si ça ne l'aurait pas sauvé, c'était déjà trop.
Donc il n'y a pas de regret.
Non, pas de regret là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas pour odorer quoi que ce soit par rapport à Mme Macron, mais moi j'ai eu la chance d'avoir une maman
si
qui m'a compris.
Faut dire les choses, il faut être honnête. Bon, moi j'aime pas Mme Macron.
Oui, je sais, Mike.
Mais elle a fait quelque chose de bien.
Elle a été là pour nous.
Elle était là pour vous.
Et de tout le long. Hein.
Et pour le coup, il faut le saluer.
Ah oui, tout le long.
Voilà, il faut pas. Oui. Voilà, moi je. Voilà, faut être honnête. Il faut saluer cette action. Voilà, elle a fait quelque chose de bien.
Elle a été là même après le décès, hein, parce que nous, moi, je lui ai pas annoncé. J'avais pas la force de lui dire. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle était
très
au
bien.
Courant et tout.
Ah, bah, bravo, bravo
même,
à elle.
Même derrière, elle a écrit au conseil départemental. Elle a fait beaucoup de choses pour nous, pour qu'on soit soutenus, qu'on nous lâche pas surtout.
Bah, très
et
bien.
Donc voilà. Donc.
Bah, justement. Est-ce qu'il y a eu un soutien après?
Je ne l'ai pas reçu. Moi, en fait, quand elle a fait ce qu'il fallait de son côté, je ne l'ai pas réécrit.
Non, pas de sa part à elle, mais parle du soutien du Conseil Général, tout ça, il y a eu des...
J'en ai peu besoin.
Bon.
Non. Par contre, des médecins, des premiers médecins, la première pédiatre de Maria, oui. Oui. Elle a été extraordinaire avec nous. D'ailleurs, j'ai remis les pieds dans le service, ça va faire un an. C'était aux 6 ans que j'avais perdu Maria. Je suis revenue dans le service les voir. C'était la première fois. Et il y avait toute l'équipe. J'étais super contente de les voir et tout. On a pu pleurer ensemble, parler ensemble, parler de ce test, justement, parce qu'il était aussi en test chez nous, à Brive. Et du coup, voilà, un échange chaleureux que j'avais besoin de faire, mais qui m'a fallu du temps pour retourner à l'hôpital, parce que Clara n'a jamais mis les pieds à l'hôpital en pédiatrie. Si ça devrait arriver, ça ne se passera pas. Ça sera à la maison. Je ne veux pas qu'elle mette le pied en pédiatrie.
Pourquoi ?
Ah non, ça va me... Je ne pourrais pas.
Tu ne peux pas revivre deuxième fois cette...
En fait, c'est même pour rien. Non. Je préférerais l'amener dans un autre hôpital que Limoges ou Brive. Parce que je ne veux pas revivre ça. Avec la chance que j'ai sur la même chambre, je n'ai pas envie. Les mêmes chambres ou quoi, donc non. Je l'amènerai vraiment ailleurs. À Tulle ou à Clermont.
Comment on vit après le deuil ?
Ah ben déjà, faut se reconstruire. Hein, déjà, le couple prend un coup, forcément. Puisque moi, j'étais très en colère après le papa de Maria. En fait, j'acceptais pas. En fait, il m'a toujours protégée de son chagrin, de sa tristesse. Et en fait, j'avais l'impression qu'il ne me regardait pas, alors que si. Et la psychologue, un jour, m'a dit vous êtes sur le même chemin, sauf que lui, il a le droit d'avancer plus vite que vous. Puisque nous, les mamans, on a tendance à reculer. En fait, c'est un élastique qui nous ramène toujours en arrière. Et lui, il a pris la décision d'avancer, tout en pensant à sa fille. Il y pense tout le temps, tous les jours. Mais s'autoriser à sourire. Et à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous étiez pas loin de vous séparer ?
On a eu des sales moments. Hein. Il est toujours là, monsieur papa. Oui, on a eu des très mauvais moments. Ouais. Ouais. Moi, j'ai mis longtemps à exploser. J'ai mis plus de 18 mois, je crois.
J'imagine que parmi nos auditeurs, certains vivent ce genre de drame. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ?
Déjà, il ne faut pas oublier de s'aimer. Même pendant la maladie, quand on avait Maria, c'était la première chose qu'on s'était dit. On savait qu'on allait se battre fort. On pensait ne pas perdre notre fille, forcément. Mais on s'était dit, quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'on oublie de s'aimer. Et à un moment donné, on a oublié de s'aimer. Enfin, j'ai oublié de l'aimer. J'ai le plus détesté, et je le dis. Hein. Je n'ai pas honte de le dire, il le sait. Parce qu'en fait, quand moi je sombrais, j'aurais peut-être voulu qu'il sombre avec moi. Mais heureusement qu'il n'a pas sombré. Parce que du coup, il m'a relevé. Donc, quand on vit un deuil, parce que la plupart des parents se séparent, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas oublier de s'aimer, il ne faut pas s'interdire de s'aimer. Il faut surtout, c'est une phrase que je dis toujours, tant que nous on vivra, notre fille vivra. C'est pour ça et tu vivras toujours. Parce qu'on est là pour raconter, pour dire elle a existé, elle a été là, et on va vous raconter son histoire. Et aujourd'hui, on a eu une deuxième petite fille, tous les deux, qui va bien, qui porte sa scène de la maladie, mais qui ne va jamais la développer. Et elle nous a redonné... on arrive à sourire sans culpabiliser. Enfin, on s'est vu avoir des fous rires et s'arrêter d'un coup. Hein. Moi, je me souviens du premier repas qu'on a fait avec nos familles. C'était chez son frère jumeau, je ne sais pas si elle s'en souvient. Et on a commencé à rire. Et on s'est arrêté. Parce qu'on... Enfin, je pense qu'on s'est dit la même chose, qu'on n'en a pas parlé forcément. On s'est dit, mais pourquoi on rit, nous ? On ne devrait pas rire.
Mais justement, on éprouve cette culpabilité.
Ah ouais, on n'y arrivait pas. C'est rire, mais moi, en tout cas, me concernant moins, et je sais que c'est pareil pour lui, parce que pendant... Très longtemps, je sais qu'il a pleuré à part. On écrit le deuxième livre ensemble, là, tu sais, sur le deuil, justement. Sur ce que papa ressent, c'est ce que maman ressent. Donc, j'ai appris dernièrement qu'il pleurait au travail, et pas devant moi. Ça m'a fait mal de le savoir, mais j'ai dit, ah. J'étais tellement triste qu'il ne voulait pas me rajouter de la tristesse, en fait. Mais je l'ai compris après. Quand, à mon tour, j'ai réalisé que moi aussi, j'allais peut-être un peu trop loin avec lui. Il a le droit d'être heureux.
C'est pas dans quel sens t'allais trop loin ?
J'étais méchante. Ouais, j'étais méchante. Je lui ai reproché plein de trucs, il n'avait pas reproché. Un verre qui n'était pas mis à sa place.
Question d'auditeur. Bonjour, certains enfants diagnostiqués positifs n'ont pas été traités ou on ne peut pas savoir s'ils l'ont été. Ces enfants auraient-ils été inclus dans un protocole en simple ou double aveugle ? Dans ces protocoles de recherche clinique, même celui qui injecte le traitement ne sait pas quel est le produit, ceci afin de ne pas influencer le résultat final. Il est évident que ce protocole se justifie pour des traitements portant sur des maladies courantes ou une amélioration peut-être partielle. Mais pour une pathologie mortelle comme celle en question, cela paraît une pratique bureaucratique bien dénuée de toute compassion. Mais c'est la Bible en matière de recherche clinique. Cela vient du fondateur du NHS anglais, Alex Cochrane, qui avait écrit un bouquin où il exposait ce genre de principe digne d'un garagiste. Ce bouquin est la Bible de nos bureaucrates, du ministre de la Sécu, qui ont détruit le système de soins français depuis Giscard. C'est vrai que le problème aussi de l'hôpital, c'est que 30% du personnel, même de l'hôpital, même dirigeant, ce sont des fonctionnaires administratifs.
C'est vrai. Pour répondre à cet auditeur, en fait, on n'est pas du tout sur un essai clinique comme elle le décrit. Ce n'est pas du tout le cas, puisque on a dépassé ce stade-là, justement, au niveau des traitements. Au niveau du sirop, au niveau du Spiranza et au niveau de la thérapie génique, il n'y a plus de placebo à l'heure actuelle. On a vraiment dépassé, on est vraiment en autorisation temporaire là. Ça veut dire que ce n'est plus un essai clinique. C'est vraiment, on est au-dessus. On a le vrai médicament.
Alors, bonjour, je suis dégoûté d'entendre que l'argent du Téléthon donné par les Français pour faire des recherches, qu'une fois ces travaux réalisés et performants pour sauver des enfants, on vend comme par hasard ces brevets au laboratoire des Américains, des USA. Qui dénonce ce vol ? Et pour soigner correctement les patients, des motifs financiers sont évoqués et des personnes meurent qu'elles ne bénéficient pas des traitements existants. Toutes mes pensées à cette maman qui s'est battue pour sauver Maria et les autres. Oui, c'est vrai.
Mais elle a raison, elle a tout compris.
Je devrais faire une émission spéciale là-dessus. Voilà, parce que, je l'avoue, je n'avais pas connaissance justement de ce fait de Téléthon. Ça, pour le coup... il faudra faire quelque chose de spécifique. Auditeur, connaissez-vous le livre de Helmut Sterz, ancien toxicologue chez Pfizer, dont le titre est Vaccin, la mafia? Ce livre est recommandé par le professeur. Non, je ne connais pas.
Non plus.
Je ne connais pas du tout. Mais bon, là, on ne parle pas de vaccin.
Non.
Et ce n'est pas Pfizer.
Non. Parce que, effectivement, dans le Covid, on vous parlait d'ARN messager. Nous, ça nous parlait déjà. Parce qu'il y a eu. Ce débat sur l'ARN messager. Mais nous, ça nous parlait déjà, donc on savait très bien.
Oui, mais ça ne signifie pas que si on met l'injection Covid,
non.
Que les gens auront.
Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas de rapport. Hein. Ça n'a pas de rapport. Voilà.
Okay.
Et puis l'ARN messager, c'est peut-être bon pour certaines choses, moins bon pour d'autres. Enfin, moi, je sais pas.
C'est naturel chez nous,
voilà.
De base. Hein. D'accord. C'est vraiment naturel. Et c'est ce qui va manquer aux enfants de truie spinale, puisqu'ils ont des lésions. Donc il va à un moment donné, il va se passer un truc où ils passent moins. Et de ce fait, on ne peut pas se tenir. Enfin, Maria n'aurait jamais pu se tenir droite, comme si, à part si elle avait eu la thérapie génique à la naissance, ou même à J21, c'est très bien, à jour 21 de vie, elle aurait pu être comme toi et moi aujourd'hui. C'est ça qui est miraculeux. Il faut comprendre que ça, c'est la solution. On a la solution. Pourquoi on ne la délivre pas à tous les enfants ? J'aimerais qu'on nous réponde là-dessus, vraiment. Si quelqu'un a la réponse, je veux la réponse.
Mais cette solution, le pire, c'est qu'elle aurait été même quasi gratuite. Et elle coûte 2 millions d'euros, ou de dollars, je ne sais pas.
5 milliards de dollars.
On l'a vendue 5 milliards de dollars et elle vaut pour nos enfants 2 millions de... Enfin, c'est... Alors, vous avez parfaitement raison, c'est le scandale de gaspillage de l'État. Pour le domaine des médicales, on peut ajouter que la politique d'économie de la Sécu, alliée à la faiblesse du soutien bancaire aux entreprises innovantes, a réussi à faire que quasiment tout est importé et que les entreprises innovantes se font racheter par les fonds étrangers. Dans une France vieillissante, le secteur de soins représente un marché intérieur considérable qui devrait être un moteur économique et soutenir des entreprises exportatrices. Cette politique aberrante a réussi à en faire une enclume, un poids mort. On a tout bradé, mais l'État a largement financé Disneyland et ses emplois d'avenir, l'exception culturelle française aux oreilles de Mickey. Le secteur pharmaceutique français était le second au monde. C'est vrai, hein, jusqu'au début des années 80, on mesure le recul quand on sait qu'on manque de Doliprane et d'Ampicilline. Ben, le Doliprane, on l'a vendu. Mais t'imagines ?
Non, mais...
C'est,
on vend, mais on n'est pas enrichi.
Mais le pire, voilà, il y a cette maladie de ta fille et ces 5 enfants qui ne sont pas soignés, j'imagine 5 enfants par an au minimum. Mais combien d'autres maladies, est-ce que l'on sait combien d'autres maladies dont des remèdes chers et peut-être des enfants n'en reçoivent pas.
À ce niveau-là, c'est le plus cher, la myotrophie spinale, enfin le plus cher, c'est le deuxième, hein. Plus cher, c'était promis jusqu'à l'année dernière. Après, il y a d'autres maladies où il y a toujours des recherches. Il y a beaucoup de maladies orphelines. Il y a très peu de maladies reconnues aujourd'hui. Puisque avant d'aller chercher un traitement, il faut connaître la cause de la maladie. Et si on n'a pas une personne qui s'y intéresse, par exemple, je vais me permettre de te parler d'une personne.
Vas-y.
SMT Family. Je vais te parler de lui, pourquoi.
C'est qui ça ?
SMT Family, il est sur TikTok.
D'accord.
C'est un papa que j'ai reçu récemment dans mes talk shows.
Ouais.
Donc sur TikTok. Sa fille.
Oui, parce qu'on peut te retrouver aussi sur TikTok sur le nom de.
Marie-Aline.
Marie-Aline, t'as des dizaines de milliers d'abonnés.
J'en ai 30K, je crois. Ouais, 27K.
Okay.
Et donc, du coup, je reçois ce papa parce que ça me renvoie un petit peu à mon histoire. Sa fille, la 107e petite fille détectée sur une maladie. Alors, je te raconte, la maladie est très compliquée. Et il n'y aura jamais de recherche là-dessus.
Pourquoi ?
parce que c'est trop rare, voyons.
C'est pas rentable, on va dire.
C'est pas rentable, pourquoi aller chercher là-dessus? Et il y en a, il y en a tellement. Le petit Ibrahim aussi, je vais en parler, sa maman est aussi sur TikTok. Les yeux d'Ibrahim. Ce gamin a une maladie génétique rare, pareil. C'est une délésion d'un gène C03. J'en avais parlé avec le professeur Servet d'ailleurs. Il perd la vue, il est en train de devenir aveugle. Et au fur et à mesure, il va s'affaiblir. C'est des enfants qui sont destinés aussi à ne pas vivre longtemps, malheureusement. Et là, c'est pareil. Sa maman se bat. Parce qu'il existe des traitements au Mexique, par exemple. Tu vois?
Au Mexique.
Ouais,
mais pas en France.
Pas en France. Mais nous n'irons pas voir ce qui se passe là non plus parce que c'est trop rare. Pas assez de cas. Alors, j'ai envie de dire, pas assez de cas détectés ou vraiment pas assez de cas. Parce que c'est tellement des maladies rares que les médecins généralistes ou les pédiatres, et je leur jette pas la pierre, il hein, faut revoir les façons de former nos médecins, nos nouveaux médecins en tout cas, sur ces maladies-là qu'on découvre, ben, ils sont pas formés là-dessus, donc du coup, ils vont pas chercher plus loin. Ben, ils deviennent aveugles, quoi. Si la maman fait pas de recherche ou demande pas de faire des tests, ben, il se passe rien.
Attends, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la France de 2026, il faut que ce soit les parents qui disent aux médecins, écoutez, est-ce que aller vers cette direction, quoi ?
Mike, oui, oui. Bien sûr que oui. Parce que encore une fois, on a des médecins qui ne sont pas formés. Ce n'est pas de leur faute à eux. Ils ne sont pas formés. Quand on découvre une nouvelle maladie, génétique ou peu importe, il y a forcément... tu sais, ils publient. Ils publient ces médecins-là. Pourquoi tous les médecins ne l'ont pas dans leur cabinet? Pourquoi ils ne reçoivent pas un mail? Voilà, on a découvert ça, penchez-vous dessus. Enfin, on est en 2026, l'information va très vite aujourd'hui, non? Tu es d'accord avec moi ou pas?
Bah, oui.
On peut la délivrer en une minute, cette information. J'ose croire et j'ose espérer aujourd'hui que nos futurs neuropédiatres ont une connaissance irréprochable sur la dystrophie spinale et la dystrophie Duchenne, etc. Il y en a tellement encore aujourd'hui. J'ose croire qu'ils peuvent détecter un enfant en l'auscultant, par exemple, et en confirmant avec une prise de sang. J'ose croire qu'aujourd'hui, c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, il va peut-être falloir que l'État ou le ministre de la Santé fasse quelque chose à ce niveau-là, quoi. Ils doivent être informés.
Et ces gens avancent ? Est-ce que le ministère avance?
Avec le test de Guthrie chez nous, oui, c'est bon, c'est bien. Il manque que les traitements. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas eu, on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Mais après, sur les autres maladies, la FM Téléthon se bat quand même hein, sur
mais,
pas mal de choses.
Ils ont créé là, cette structure-là, étatique, là, qui est départementale. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. On en parlait grave pendant le Covid. C'était Madame Bachelot qui avait créé cette structure.
Pour les tests?
Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et d'abord, j'ai oublié le. Là, c'est une agence d'État qui a dans tous les départements.
L'ARS.
Voilà, l'ARS.
Ah, l'ARS.
Voilà. Est-ce que ça, est-ce que ça sert à quelque chose?
Mais bien sûr que non, Mike. Je leur ai écrit en 2018 pour parler de la charte de l'enfant et les soins qui lui sont dus.
D'accord.
Par le centre hospitalier dans lequel elle se trouve à ce moment-là. Je pointe du doigt un kiné qu'un service. C'est quoi cette histoire? C'est pas normal, ma fille n'a pas les soins qu'elle mérite et qu'elle devrait avoir. J'ai écrit en décembre 2018. Tu veux savoir quand est-ce qu'ils m'ont répondu?
Non.
En
oui,
décembre
oui.
2021.
Ah oui.
D'accord.
3 ans après.
Ah oui. En leur disant mais...
Nous avons bien reçu votre courrier, merci.
Oui, cependant, oui. Et j'ai répondu, Maria est décédée, merci, au revoir.
Mais... Je comprends pas, mais à quoi sert, bon, j'imagine, à...
Il y a des manqués.
À mettre des... À mettre des amis dans la fonction publique, mais... Enfin... Est-ce que tu l'as dit aussi?
Oui. Non?
Ben, je pense, hein.
Je suis d'accord.
À des labos...
Ouais.
Bonjour, l'hôpital, ce ne sont que des fonctionnaires dans une administration avec la CGT. Voilà pourquoi tous les malades de coronavirus étaient dirigés là et pas dans le secteur privé. Tout était... sous contrôle. Oui, enfin, ce monsieur a raison. Je comprends plus. On a maintenant des j'ai appris qu'il y avait des Français qui ne voulaient plus faire médecine en France, mais qui vont en Roumanie.
Mais oui, mais
ah, c'est... t'imagines.
Mais c'est tellement mal payé.
Est-ce qu'il y a 20 ans, est-ce qu'il y a, même non, pas qu'il y a 20 ans, il y a 5 ans, t'aurais dit ça?
Non.
Est-ce que tu l'aurais cru?
Non. Non, non. Il y a des jeunes qui se forment ici, mais qui vont travailler ailleurs.
Non, mais c'est qu'est-ce vrai, qu'il hein. faudrait faire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il faudrait faire?
Bonne question. Je ne sais pas. De toute manière, quand tu vois le désert médical que nous avons,
Par exemple, toi, t'es en Corrèze. Comment ça se passe? Je veux dire, il faut aller loin?
Non, j'ai mon médecin de famille, moi. Donc, du coup, je suis avec le médecin de ma famille. Donc, j'ai mon médecin de famille qui est relativement jeune. Donc, il a à peu près mon âge. Donc, ça va aller. Non, nous, c'est bon. Nous, on a...
Mais bon, on a rendez-vous, les yeux, les machins.
Ah non, 6 mois minimum.
Voilà, c'est ça.
6 mois, 2 ans.
Mais ça n'existait pas, ça, avant.
Non. Puis en plus, le pire, c'est qu'ils refusent les nouveaux patients. C'est-à-dire que si tu arrives, tu veux vivre en Corrèze, t'as pas de médecin. Bah,
tu sais, regarde, moi, je suis un môme du quartier. J'ai eu une pneumonie à 17 ans. L'hôpital, pas très loin, c'est Ambroise-Paré. J'ai tout de suite été pris en charge. Voilà, j'ai fait mes 15 jours d'hosto. OK. Mais aujourd'hui, un môme qui a sa pneumonie, aujourd'hui, même du quart d'ici, là, ça, ils vont le laisser, ils vont lui dire, bon, restez chez vous, voilà, prenez des Doliprane.
C'est ça. C'est voilà, ça, en fait. C'est devenu ça, en fait. Doliprane, mais t'as trop raison. Mais c'est partout, devenu ça, en fait. Oui, tu sors avec une ordonnance. Une fois, on va... Tu veux pointer à l'hôpital? Regarde. On va avec Clara à l'hôpital. J'avais un petit doute de ce qu'elle avait. Donc, c'était en plein Covid, de nouveau et tout.
Ouais, ouais.
Et donc, je dis à papa, viens rentrer avec elle, ce qui était inquiet quand même, dit 42 de fièvre depuis 3 jours quand même. Et puis, je lui dis, tu pars pas du pied même bouche, s'il te plaît. Tu ne dis rien. Tu attends qu'il te le confirme, parce que je ne suis pas médecin. Et en fait, lui, machinalement, c'est peut-être le pied même bouche. Et il est là pour te le dire. Aucun examen de fait. Et il lui avait collé des trucs machin partout sur le corps. Ils l'ont rendu à son père. Vous pouvez rentrer chez vous. Aucun examen, il est là, il peut te le dire. Aucun examen. Il me dit... Je le ressortais, je fais déjà, c'est 10 pieds, 20 bouches. Et donc, mais ils n'ont même pas pris la peine de les décoller quoi que ce soit. C'est nous, hein, qu'on lui a tout décollé avec du liminant, tout ce que tu veux, pas qu'elle ait mal. Mais il me l'a dit une fois qu'elle était dans la voiture, il me fait, au fait, ils ont tout laissé. Mais partout sur le corps.
C'est fou. Bon, tiens, pour en revenir à ton histoire, c'est Clara. C'est Clara?
La deuxième, oui, Clara.
Clara, elle a quel âge maintenant?
Elle a eu 6 ans, au mois d'avril.
Comment elle est?
Elle est trop mignonne.
Est-ce que... Je pose la question, est-ce qu'il y a transfert sur elle par rapport à Maria?
Alors, involontairement, puisque elle se ressemble énormément. En tout cas, à la naissance, c'est les mêmes. Tellement que même le personnel l'appelle Maria. En fait, si tu veux, cette histoire est dingue. Quand j'ai accouché de Clara, j'ai eu la même équipe que Maria. En salle d'accouchement, la même salle d'accouchement. Pas la même pédiatre. Une autre pédiatre que je connaissais aussi, qui s'était aussi un petit peu occupée de Maria. Et en fait, quand elle naît, même son papa, il dit bah, ça y est, Aline, elle va chialer, c'est sûr. J'ai la photocopie de ma fille devant moi. Mais tellement qu'on est en plein Covid, en plein confinement, premier confinement. Et je fais venir la pédiatre tous les 4 matins. Puisque j'ai peur qu'on m'ait menti, puisqu'elle a cette poursuite oculaire qu'avait Maria. Donc là, je commence à avoir peur. Je dis, c'est bizarre, pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me regarde. Donc elle est venue tout le temps. Pendant les 5 jours, elle a fait que ça venir, mais elle venait, elle comprenait ma peur. Elle appelait Limoges devant moi, mais non, c'est bien négatif et tout. Et ensuite, par la suite, eh bien en fait, quand Clara bougeait, ça nous faisait peur. On la croyait hyperactive. On a re-appris à devenir des parents avec un bébé pas malade. Alors quand elle bougeait trop, on était en panique. Qu'est-ce qu'elle a? Elle bougeait normalement, en fait.
Et est-ce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé?
Oui, elle a grandi avec sa sœur. Elle sait qui est Maria. Quand elle a fait un dessin, d'ailleurs, où elle a dessiné Maria dans le ciel, avec sa femme, nous, et puis Maria dans le ciel avec un arc-en-ciel, parce que pour moi, c'est mon petit arc-en-ciel. Elle vit avec sa fille, avec sa sœur. Ah oui, 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 elle est tout à fait consciente de tout, sauf que là, elle grandit, elle ressent un manque, puisque c'est la dernière. Il y a quand même 11 ans d'écart avec... Non, pas 11 ans, je dis des bêtises, 6 ans d'écart avec les grands. Quand on dit 7 ans, ils ne sont pas forcément tout à la maison, donc là, c'est vrai qu'elle la réclame aujourd'hui. Elle nous demande d'aller la chercher, que c'est bon... Elle a besoin d'une grande sœur ou sinon, faut lui faire un petit frère, une petite sœur. Donc, il y a encore cette, on va dire, cette barrière entre, on va dire, la mort et la vie. Elle comprend que sa sœur est au ciel, mais elle ne comprend pas pourquoi, des fois, elle ne vient pas la voir. Quoi. Mais sinon, elle a grandi complètement avec sa sœur.
Et vous, aujourd'hui, enfin, vous deux, lorsque vous avez cette fille, est-ce que vous traité différemment que vos, de vos autres enfants par rapport à leur âge, quand vos autres avaient le même âge.
Moi, je vais répondre pour moi, je ne sais pas si papa va dire pareil, mais moi, oui. On la surprotège. Maria n'a été gardée qu'une fois par la marraine de Maria, une fois, une nuit et une journée, parce qu'on veut l'amener les grands zoos. C'est tout. Elle est tout le temps sous nos yeux, à part quand elle est à l'école, mais sinon, c'est nos yeux. On ne la quitte pas des yeux. Elle a fait le cododo avec nous jusqu'à 5 ans. J'arrivais pas à la mettre dans sa chambre. Donc ouais, on la traite vraiment différemment. Enfin, mais tous nos enfants, de manière, ils sont traités de la même manière. Mais c'est vrai que Clara, c'est davantage. Beaucoup de protection.
Parce que j'imagine qu'il y a toujours une peur derrière. Il y a, ça, sort, ça, ça, ça reste.
Ouais. Oui, oui. Ah oui, oui, mais elle survit comme de l'huile sur le feu, elle. Elle pourra pas mettre un pied dehors, je crois, sans avoir un frère ou un parent derrière. Mais oui, oui, elle est très, très cocoonée.
Ça veut dire que l'épreuve, Maria, ça vous marquera tout le jour et du coup, vous avez des plis que vous n'aviez pas avant.
C'est ça, c'est ça. Mais ça va être dur pour elle, en fait. Je me dis, parce que, tu sais, Maria, quand elle était dans mon ventre, on disait, ouais, jamais elle sortira de la maison. C'est notre bébé, c'est notre fille, parce qu'en plus, si vous voulez une petite fille, vous voulez qu'elle s'appelle Maria, alors tout se présentait super bien. Et en fait, quand on a appris que notre fille allait mourir, on s'est dit, ben, aujourd'hui, on voudrait qu'elle se marie et qu'elle parte de la maison. On voulait qu'elle ait un avenir, finalement. Alors, on sait tout ce qu'on souhaite à Clara aussi, mais on s'est dit quelque part, en voulant la garder pour nous, ben, finalement, ouais, on l'a gardée pour toujours pour nous, en fait. Et on a eu des fois des moments où on s'est dit, ben, est-ce qu'elle va pouvoir se marier? Est-ce qu'elle va... Parce que nous, on espérait quand même pour notre enfant. Papa, beaucoup plus que moi, c'est vrai, il était toujours dans le positif. Et on s'était dit, enfin, j'avais dit au papa, je dis, écoute, si ça va, si notre fille vit, j'aimerais qu'elle puisse avoir un petit frère, une petite sœur. Et je le dis vraiment comme je l'ai pensé à ce moment-là, tu vois. Pour que cet enfant va grandir avec la maladie, saura s'en occuper. Quelque part, je voulais qu'elle ait un aidant. Je l'aurais aimé, cet enfant, tout autant que Maria, c'est sûr. Mais parce que nous, on avait 40 ans quand même. Enfin, on allait avoir 40 ans et je me dis, mais tu te rends compte, si on part, il peut nous arriver n'importe quoi dans la vie. Si elle est toute seule, je ne voulais pas que ma fille soit remise aux mains de l'État et dans des établissements pour personnes en situation de handicap. Ouais. C'était hors de question pour moi. Donc c'est vrai que je voulais absolument qu'elle ait un petit frère, une petite sœur pour qu'elle aurait grandi avec la maladie, qu'elle aurait su quoi faire.
Alors je rappelle le livre Aline Delbourg. Et tu vivras toujours parce que l'amour ne disparaît jamais. Ce livre, quoi, c'est une thérapie.
C'est un témoignage. Il est écrit comme un témoignage. En fait, il est écrit de manière... C'est comme si, comme je suis en train de te parler, ouais. Là, il est écrit exactement comme ça dedans. Dedans, tu as tout le parcours. L'envie d'avoir un enfant, la grossesse, l'accouchement et tout ce qui va suivre derrière, en fait. Et jusqu'à son décès.
T'avais besoin d'extérioriser ça ?
Ça faisait 6 ans que j'étais dessus. J'arrivais pas à le finir. Et j'ai réussi grâce aux personnes qui m'entourent, donc mes modos de TikTok en l'occurrence. Et mon chéri aussi qui m'a beaucoup aidé. Et toutes les personnes en fait qui m'ont soutenu dans ce projet en me disant, faut que tu le finisses.
Et donc, toi aujourd'hui, tu milites aussi sur TikTok. Enfin, t'as une association, je crois.
Non.
En tout cas, tu milites sur TikTok.
Oui.
Donc, tu fais des émissions quotidiennement.
Je fais des talk shows, oui.
Où tu reçois des parents et est-ce que depuis TikTok tu remarques en fait il y a énormément de parents qui vivent ce que tu vis, qu'il y a beaucoup plus que tu ne le pensais peut-être.
Alors sur TikTok non, parce que ils parlent pas trop sur les lives.
D'accord.
Comme je t'ai dit.
Mais dans la vie oui.
Dans la vie, dans la vie j'en ai rencontré des tas. Ah oui oui. Ah oui oui des tas dans la vie. Mais comme je t'ai dit au bout d'un moment moi aussi je prenais leur
non, mais,
deuil.
Bien sûr non mais ça, ce qui veut ça, en fait ça veut dire que en réalité, parce qu'on nous a toujours, depuis qu'on est gosse, on nous a toujours dit oui, la médecine française, l'hôpital français, c'est le meilleur au monde, machin. Et en réalité, lorsqu'on est dans la vraie vie, dans la réalité, tout ça, on voit des témoignages, des gens qui disent qu'ils ont ceci, cela, qui vivent telle chose. Et on se rend compte qu'en fin de temps, on nous a un peu menti quand même.
Moi, j'ai l'impression qu'ils sont surtout à la course aux patients. Ils sont à la course aux patients. Ils ne vont pas s'informer quand il faut s'en informer. Et c'est vrai. Ils ne se mettent pas au goût du jour pour moi.
Alors, tiens, Borowski parle d'un cas de manque de diagnostic et de soins d'un enfant à l'hôpital. Il évoque comment ont été traités nos enfants pendant le Covid. Il se plaint régulièrement de l'accès de la justice. Il oublie... Je vois ce que j'ai oublié. Il oublie l'élément commun de ces trois corps de profession. Ils sont... ah là là, pas gentil ce qu'il va dire. Hein.
Ah.
Ils sont maintenant entièrement aux mains des femmes qui ont malheureusement leur ADN, le côté obéissance au chef et très peu de côté rebelle. En tout cas, c'est pas le cas d'Aline. Hein. S'il y a un projet de soumission de la population par les hautes sphères dominées par des hommes, quoi de mieux que de faire appliquer ce sinistre projet par celles qui ne viendront pas les critiquer ou très peu. Tiens. Est-ce qu'il dit la vérité, ce monsieur ?
Non.
Quand même, les femmes, quand même. Ouais, mais,
on pense à vie, hein, monsieur.
Peut-être, peut-être dans la justice, peut-être. Hein. C'est vrai qu'au niveau des juges, c'est que des femmes.
C'est vrai.
Mais pas des médecins. Si ?
Non. Moi, j'ai rencontré de tout. Même en interne, il y avait plus d'hommes que de femmes.
Et d'ailleurs, la pédiatre était une dame.
Les deux. Les deux ouais. qui sont penchés sur Maria, c'est des femmes, effectivement.
Quelle mauvaise langue, hein, vraiment.
Non, vraiment. Hein ?
C'est une mauvaise langue, ça, de dire ça. Hein.
Mais la plupart, c'était des hommes, c'est vrai. Mais à part les deux plus importantes, ouais.
Mais bon, c'est vrai que les femmes ont certains biais, mais les hommes ont d'autres biais. C'est pour ça que les hommes et les femmes se complètent. Hein.
Oui.
Voilà.
C'est, et c'est fait pour ça, je crois.
Et c'est fait, et c'est fait pour ça. C'est pour ça que c'est... Non, mais là où monsieur a raison, c'est qu'il ne faut pas laisser une profession essentiellement aux hommes, une autre profession essentiellement aux femmes. Voilà.
Non, il faut la que... disparité dans toutes les professions.
Voilà. En tout cas, toi, tu étais à l'hôpital en Corrèze. C'était mélangé, mixte.
Ah oui, même, même à Limoges, hein, c'était... Il y avait plus d'internes hommes. Hein. Mais non, non, c'était... J'ai pas vu de... Moi, j'ai affaire aux deux, donc...
Donc, je voulais revenir avant cette question à TikTok. Tes émissions, ça se base sur quoi ?
Alors, c'est surtout sur la vie de tous les jours. Hein. Mais la plupart, effectivement, c'est avec des parents. C'est avec des parents où on va parler... on a eu des très forts moments sur le deuil. Sur justement, il y a des parents, comme tu dis, qui ont des enfants malades, pas forcément cette maladie, mais d'autres, et qui viennent témoigner du dysfonctionnement ou du manque d'informations ou comment eux, ils vont chercher l'information.
Justement, qu'est-ce qu'ils te disent, ces parents, en général ? Quelle est vraiment la chose qui ressort ?
C'est eux qui vont chercher l'information. On ne leur donne pas.
C'est-à-dire que, dorénavant, l'hôpital ou le corps soignant ne communique pas bien, ne veut pas communiquer avec les parents.
Il n'en dira pas plus. Il va donner le nom de la maladie, ce qui peut arriver, et puis au revoir.
Est-ce que ça, c'est lié à la nouvelle génération de soignants ?
Non.
Ou ça a toujours été comme ça ?
Non, ça a toujours été comme ça. Je pense que les nouveaux auront un autre regard. J'espère. En tout cas, je le souhaite.
Qu'il faudrait faire, justement ? Est-ce qu'ils devraient, dans leur cursus universitaire, qu'il y ait, je ne sais pas moi, peut-être des cours de communication, peut-être ?
Oh oui. Oh oui. Après, il y a des médecins qui communiquent très bien. Moi, après, la neuropédiatre de Maria... Il y a eu des moments où elle était très dure avec moi. Il y a des moments où elle a eu raison. Parce que là où moi, je nourrissais de l'espoir, il n'y en avait pas. Et le jour où elle en a nourri, il n'y en avait plus. Et ce n'est pas de sa faute, je n'en veux pas. Parce qu'elle avait vu quelque chose. Elle n'avait jamais traité un type 1 avant Maria. Donc, elle a vu des choses qu'elle n'avait pas vues avant. Et elle nous avait parlé d'avenir 15 jours avant. Je n'en veux pas, encore une fois. Et que tout est allé très vite après. Deux semaines plus tard, c'était terminé. Mais il y a des médecins, il faut qu'ils soient... avec des parents comme moi, surtout, qui sont toujours en train d'aller chercher dans leur retranchement. Il faut qu'ils... Pour moi, un médecin doit aller au bout. Et il doit surtout écouter. Et sa première pédiatre m'a dit, quand on est parti les voir, quand on a perdu Maria, m'a dit, vous avez été le meilleur médecin qu'elle n'ait jamais eu. Parce que vous n'avez jamais rien lâché, vous avez tout fait pour. Je ne me voyais pas dormir la nuit et pas trouver de solution. J'étais pas sûre d'en trouver une. Mais au moins, j'ai essayé. Et c'est ce que font les parents aujourd'hui. Les parents sont de plus en plus guerriers. Il y avait des parents à l'époque, ils n'auraient rien fait. Ou j'aurais dit, ben c'est comme ça, c'est le destin. C'est ce qu'on entend souvent, c'est le destin. Et non, aujourd'hui, on a des parents qui se battent.
C'est vrai. Et c'est tant mieux, parce qu'on remarque quand même que la population est très lasse, si je puis dire, sur la vie de tous les jours. Vous dites, ah, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, on peut voir des parents comme toi qui se battent, quoi. Et en fait, il faut se battre.
Ah oui.
Et on ne peut pas laisser dire, oui, mais l'État, machin. Non, il faut y aller.
Ah non, mais moi, je le dis, aller jusqu'au bout. Parce que, quoi qu'il arrive, on sauve l'enfant ou on le perd. Mais au moins, on l'aura fait. Il ne faut pas nourrir de regrets là-dessus. Et il faut aller au bout. Il faut pas se donner les moyens, mais quand on a la rage... Et qu'on veut sauver son enfant ou les autres. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai plus rien à sauver, me concernant moi. Mais je me dis qu'il y a tous les petits derrière.
Ton action, elle a permis justement
oui,
de sauver des mômes.
Elle a permis beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dénonce qu'elle ne sauve pas 10 enfants, là, sur les deux dernières années. C'est pas normal. En fait, trois dernières, parce qu'on parle de 2023 quand même. 2023, 2024 et 2025. Donc, il y a 10 enfants aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ignore complètement s'ils ont reçu un traitement et s'il y a eu des décès. En fait, je ne demande pas de compte-rendu, pour moi, public. Il faut les rendre publics parce que, comme tu dis, c'est nous qui donnons à la FM Téléthon. Nous devons savoir ce que vous faites avec cet argent.
Il y avait scandale à l'époque, rappelle-toi, de la Ligue contre le cancer.
Oui.
Où le gars, il a pris de l'argent pour se faire une baraque. Et d'ailleurs, est-ce que justement, il y a une croissance au niveau des dons sur le Téléthon ?
Alors, ça dépend des années.
Parce que je sais que, par exemple, le site d'action, ça ne fonctionne plus du tout.
Ça dépend des années. Il y a des années où ils ont donné 90 millions, je crois. Et l'année dernière, je crois que c'était 69 millions. Ça dépend, en fait. C'est pas vraiment, c'est stable. Il n'y a pas plus ou moins. Là, je te parle ce que j'ai vu à la télé. Hein. Après, j'ai pas regardé les chiffres.
En tout cas, merci à toi, chère Aline. Aline Delbourg, et tu vivras toujours parce que l'amour ne disparaît jamais. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ?
Sur Amazon.
Voilà, allez-y. Vraiment, c'est bouleversant. Il y aura des conseils. Voilà. C'est tout ce que tu as vécu.
Un témoignage. C'est sur le deuxième livre.
Et vous pourrez aussi vous inspirer d'Aline. Parce que je pense que t'es quand même inspirante, pour le coup.
C'est gentil.
Donc, et où est-ce qu'on peut te suivre ?
Alors, sur TikTok, Marie-Aline, voilà. Vous trouvez Marie-Aline, Maria Aline.
Maria Aline, voilà. TikTok. T'as tous les soirs ?
Alors là, en ce moment, non. Mais, parce que voilà, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Mais sinon, c'est plutôt tous les matins.
Tous les matins ?
Oui, tous les matins à partir de 9h.
À partir de... Ah, t'es grave, c'est quand même...
Ouais.
T'as beaucoup de monde ?
Ça va, ça dépend. Ça dépend du jour, ça dépend du sujet.
Bah écoute, je vais te faire revenir, mais là, géopolitique pour nous, parce que vraiment, le coup du Téléthon, tout ça, je ne le savais pas.
C'est écrit sur leur page, je te laisse regarder.
Hein ?
Sur la FM Téléthon, tu vas te trouver, parce que c'est écrit.
Bah, je ne savais pas.
Et voilà, je te laisse regarder.
Bah, très bien.
Si tu ne trouves pas, tu m'appelles, je t'enverrai le lien.
Avec grand plaisir. Bah écoutez, merci à toi, chère Aline. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Merci à la technique, à Virginie, à notre ami qui est là, ici présent, qui a remplacé Virginie. Elle est où ? Je salue Virginie. Et je salue bien entendu Patrice aussi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 6 juin 2026 de 10h30 à midi et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.